l'écoute des RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
Raphaël Rennes.
Donald Trump affirme que le débat qui l'opposait hier soir à Kamala Harris était truqué. L'ancien président assure que les journalistes de la chaîne de télévision ABC ont favorisé sa rivale démocrate, donnée gagnante de ce débat par la quasi-totalité des médias américains. Washington qui met en garde le Mexique contre la réforme judiciaire adoptée par le Sénat ce mercredi. Un texte controversé, défendu par le président mexicain Manuel López Obrador. Et puis nous parlerons musique dans cette édition avec la sortie du troisième album des Archives de Neil Young. Le chanteur et guitariste folk chantre des mouvements contestataires des années 60 et 70 aux États-Unis. La cote de Donald Trump s'érode chez les bookmakers américains. Au lendemain du débat télévisé qui a opposé hier soir l'ancien président à sa rivale démocrate, c'est Kamala Harris qui tient la corde chez les parieurs. L'action du groupe de médias de Donald Trump a par ailleurs plongé ce mercredi, perdant plus de 12% de sa valeur aux alentours de 15h30 en temps universel. Il faut dire que la candidate démocrate a, de l'avis de tous les analystes, livré une meilleure prestation. Elle est donnée gagnante du débat, y compris par les médias conservateurs. Mais pour Jonathan Paquin, directeur de l'École supérieure d'études internationales à l'Université de Laval, au Québec, Kamala Harris va devoir encore convaincre sur une question centrale pour les Américains, l'économie.
Les sondages indiquent que sur le thème de l'économie, les Américains font plus confiance à Donald Trump qu'à Kamala Harris. Donald Trump, bon, a fait faillite à plusieurs reprises, mais c'est un homme d'affaires. Donc, il donne l'impression de mieux comprendre les enjeux économiques que Madame Harris. Madame Harris était une procureure générale, c'est une avocate, c'est une sénatrice, mais elle n'a pas énormément d'expérience dans ce domaine. Elle a une excellente équipe économique, bien entendu, qui l'entoure, mais elle-même n'a peut-être pas encore, me semble-t-il, la crédibilité pour s'imposer comme une voie valable pour les 4 prochaines années. Et c'est là-dessus, à mon sens, qu'elle devra travailler au cours des prochaines semaines à être très claire, à être très confiante dans ses propositions sur le plan économique. Et ça devrait bien aller pour elle d'ici le 5 novembre prochain.
Jonathan Paquin de l'Université Laval de Québec au Canada avec Anne Cantner. Ce mercredi, Donald Trump a assuré que le débat avait été truqué par la chaîne organisatrice ABC, truqué en faveur de sa rivale démocrate. Kamala Harris qui a reçu, après le débat, un soutien de poids en la personne de Taylor Swift, artiste aux millions de fidèles. Les États-Unis et les conséquences de la mort d'une citoyenne américaine la semaine dernière en Cisjordanie. Aysenou Rezgiegie, qui avait également la nationalité turque, a été tuée par une balle israélienne alors qu'elle participait à une manifestation de soutien aux Palestiniens près d'une colonie. L'armée israélienne estime qu'il est très probable que ces tirs aient tué indirectement et involontairement la jeune femme. Et du côté de Washington, Nicolas Falaise, la réaction officielle semble hésitante.
L'administration américaine semble chercher ses mots après la mort d'une citoyenne des États-Unis victime d'une balle israélienne. Mardi, le président Joe Biden a parlé d'un accident et d'un ricochet sur le sol pour décrire les circonstances dans lesquelles Aysenou Rezgiegie a été tuée alors qu'elle participait à un rassemblement contre la colonisation israélienne dans le nord de la Cisjordanie. Ce mercredi, Joe Biden change de vocabulaire, se disant indigné par des tirs inacceptables. Le président américain estime que des comptes doivent être rendus et qu'Israël doit en faire plus pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a déclaré pour sa part que l'armée israélienne devait procéder à des changements fondamentaux après cette mort injustifiée. De son côté, la famille de la jeune américaine a rejeté les conclusions de l'enquête préliminaire de l'armée israélienne, qualifiée de complètement insuffisante.
La Cisjordanie, où une frappe aérienne a fait 8 morts ce mercredi, selon le Croissant Rouge palestinien et le ministère de la Santé du Hamas. Israël affirme de son côté avoir mené une opération antiterroriste et confirme 5 morts. Dans la bande de Gaza, nouveau bilan publié par le ministère de la Santé du Hamas. Plus de 41 000 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne depuis le début de la guerre il y a 11 mois. Les bombardements israéliens à Gaza ont fait au moins 64 morts au cours des dernières 24 heures, précise le Hamas. L'Iran et l'Irak ont signé 14 protocoles d'accord pour renforcer la coopération entre les deux pays. C'est ce qu'a annoncé le président iranien actuellement en visite à Bagdad. C'est la première visite à l'étranger de Massoud Pezeshkian depuis son élection. Les accords signés portent notamment sur l'éducation, les communications, sur l'agriculture et les ressources naturelles. Au Mexique, le président sortant Andrés Manuel López Obrador défend la réforme judiciaire adoptée par le Sénat mercredi. Mais Washington met en garde Mexico contre cette mesure très controversée et qui provoque des manifestations qui inquiètent les investisseurs étrangers. Agnieszka Kumor.
Les inquiétudes des investisseurs alimentent une forte baisse du peso. La monnaie nationale a atteint la semaine dernière son niveau le plus bas depuis 2 ans par rapport au dollar. La loi controversée, adoptée par le parti de gauche présidentiel et ses alliés, génère de fortes tensions avec les États-Unis, premier partenaire commercial du Mexique devant la Chine. La réforme prévoit notamment l'élection des juges, y compris ceux de la Cour suprême et des magistrats, par un vote populaire. Ce mode d'élection du pouvoir judiciaire, qui pourrait subir des pressions politiques, est une menace pour la démocratie au Mexique, mais aussi pour l'accord de libre-échange qui lie ce pays, les États-Unis et le Canada, a estimé l'ambassadeur de Washington à Mexico. La réforme inquiète aussi les milieux d'affaires locaux, et ce au moment où l'économie mexicaine s'essouffle. Ainsi, la croissance du PIB mexicain pour cette année a été révisée à la baisse à 1,5%.
Agnieszka Kumor du service économie des RFI. En Argentine, tous les regards sont tournés vers le Congrès et vers les députés qui doivent voter sur le veto de Javier Milei à la revalorisation des retraites, qui a été approuvée par le Parlement le mois dernier. Pour lever ce veto, l'opposition doit réunir une majorité des 2/3 à la Chambre des députés et au Sénat. Un rassemblement est en cours devant le Congrès pour faire pression sur les élus. L'issue du vote s'annonce incertaine. Anthony Blinken et David Lammy sont arrivés en Ukraine ce mercredi. Le secrétaire d'État américain et son homologue britannique sont à Kiev pour confirmer, une fois de plus, l'engagement de leurs pays respectifs pour la victoire de l'Ukraine. Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide économique de 717 millions de dollars à l'Ukraine. Mais il s'agit surtout pour Kiev de discuter des règles d'utilisation des armes occidentales contre la Russie. Alors que Moscou est accusé d'avoir reçu des missiles balistiques de la part de l'Iran, l'Ukraine souhaite la levée de toute restriction sur les frappes en Russie, autrement dit de pouvoir utiliser les armes occidentales comme bon lui semble. Les deux ministres des Affaires étrangères ont promis de répondre d'urgence aux demandes de Kiev. En France, Michel Barnier poursuit ses consultations afin de former un gouvernement. Le nouveau Premier ministre continue de rencontrer les cadres du camp présidentiel. Il a déjeuné ce mercredi aussi avec les élus Horizon en marge de leur journée parlementaire à Reims. Michel Barnier qui promet qu'un gouvernement sera nommé la semaine prochaine. Gouvernement auquel les députés et les sénateurs Les Républicains, qui ont débuté leur rentrée parlementaire, ont donné formellement leur feu vert à la participation de membres de leur famille politique. On termine cette édition en musique avec un monument du rock et de la folk, le Canadien Neil Young, qui continue la plongée dans ses anciens enregistrements. Le chanteur et guitariste, un des artistes qui ont marqué de leur empreinte les mouvements contestataires des années 60 et 70 aux États-Unis, vient de sortir le volume 3 de ses archives. En tout, près de 200 chansons, dont 15 inédites et plus d'une centaine dans des versions jamais entendues jusqu'à présent. Edmond Sadaka.
Ce volume 3 couvre la période allant de 1976 à 1987, des années très prolifiques dans la carrière du chanteur. Parmi les quelques inédits, Lady Wingshot interprétée en public et en duo avec la chanteuse Nicolette Larson. Parmi les albums qui retrouvent la lumière, Trans, sorti en 1982, un disque qui fait la part belle aux nouvelles technologies. On est loin ici de la folk qui a fait le succès du chanteur, mais ce disque représente bien le côté précurseur avant-gardiste de Neil Young, selon Thomas Bouju. Il a réalisé un documentaire sur Neil Young intitulé « Les raisons de la colère ».
C'est extrêmement novateur, surtout avec 40 ans de recul. Neil Young est un amoureux du son, un amoureux de la technologie, qu'il rapproche même d'une certaine génération de musiciens beaucoup plus modernes. La seule personne qui était un fou de studio comme lui, à ma connaissance, c'était Prince.
Entre versions oubliées et rééditions en tout genre, Neil Young a aussi créé, au début des années 90, un site internet où il classe ses archives et qui est un véritable musée vivant.
Neil Young avec Edmond Sadaka pour refermer ce journal. Il est 22h passées de 10 minutes ici à Paris. Restez avec nous sur RFI.